Africa.
Parlons entreprise sur Africa Radio, l'émission qui accompagne les entrepreneurs, présentée par Phil Le Montagnard avec le coach Demuller.
Bienvenue à tous et surtout bonne année, hein, bonne année coach.
Bonne année Phil.
Alors la reprise d'une entreprise, c'est donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, hein. La reprise d'une entreprise est un projet complexe qui implique souvent un engagement financier important. Dans les années à venir, les opportunités de reprise seront de plus en plus nombreuses. Il pourrait donc s'agir d'une alternative intéressante à la création d'une entreprise pour sécuriser et réussir une entreprise, une reprise d'entreprise. Il convient de s'y prendre correctement. Nous allons donc aborder le sujet. Alors coach, pourquoi justement ce sujet en cette période ?
Cette période, comme vous savez, par rapport à la Covid-19, il y aura énormément d'entreprises qui vont mettre la clé sur la porte.
Donc, qui ont déjà commencé,
donc il y aura des opportunités. Donc je pensais que c'était opportun de pouvoir aborder ces sujets-là, donner quelques conseils pour éviter que les gens fassent des erreurs, parce que des fois, il vaut mieux créer que faire la reprise. Et il faut faire attention pour qu'une reprise soit à la hauteur. Il faut examiner tous les paramètres qui entourent la reprise. Mais je pense qu'il y aura énormément d'opportunités dans les différents secteurs d'activité, parce que la Covid-19, malheureusement, pour la plupart des gens, les loyers ont continué, les charges ont continué, et s'ils n'ont pas assez de trésorerie, s'ils n'ont pas assez de fonds de roulement, malheureusement, ils vont fermer ou bien ils vont mettre en vente leurs entreprises à des prix défiant toute concurrence. Donc je pense que ça va être l'occasion là sur 2021-2022 de pouvoir se lancer plutôt dans la reprise d'entreprise, et puis il y a énormément d'avantages de passer par la reprise.
Nous aurons donc l'attention des entrepreneurs qui nous écoutent dans Parlons Entreprise. Alors coach, pour commencer, qu'est-ce qu'une reprise d'entreprise ?
C'est simplement, c'est reprendre une entreprise signifie qu'une personne, voire un groupe de personnes physiques ou une société, fasse l'acquisition de la totalité, voire une partie des actifs, des branches d'activité d'une entreprise tierce. En fait, c'est vous décidez aujourd'hui, au lieu de créer une entreprise ex nihilo, c'est vous dites, moi j'ai envie de prendre déjà une entreprise qui existe depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 10 ans, pour partir déjà sur déjà des bases solides, sur une entreprise qui est déjà pérenne. Bien sûr, il y a des inconvénients parce que il faut débourser un peu plus et consorts, mais vous pouvez partir sur cet état d'esprit-là au lieu de partir avec une création où tout est à faire.
Alors, quel est l'intérêt justement de reprendre une entreprise, coach ?
Il y a plusieurs avantages. Vraiment, ça vous permet déjà de grandir plus facilement. Le fait de reprendre une entreprise existante, il y a déjà de l'activité, il y a déjà un portefeuille client, il y a déjà des fournisseurs, il y a déjà des salariés. Donc, ça vous donne vraiment cette facilité-là.
On peut décider de venir avec son équipe et se débarrasser de l'équipe actuelle.
Oui, mais souvent, c'est pas conseillé parce qu'il faut d'abord prendre la température. Il y a un savoir à faire interne. Il y a des gens depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, maîtrisent le mécanisme de l'entreprise.
Qui sont incontournables.
Il faut prendre le temps. C'est pour ça que je dis qu'une reprise peut être bonne ou vous pouvez carrément faire quelque chose de chaotique. Il est important de suivre les différentes étapes pour éviter de passer à côté. Donc on parlait par exemple grandir rapidement, il y a aussi une plus grande confiance en l'avenir. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise qui tourne déjà, a déjà un chiffre d'affaires, a déjà des bilans, donc vous pouvez facilement déjà vous reposer là-dessus pour pouvoir voir la vie en rose. Voilà, donc ça fait partie des éléments. Un autre point qu'on peut parler, vous pouvez plus facilement obtenir des crédits.
L'entreprise existe déjà.
L'entreprise existe déjà, les banquiers connaissent l'entreprise, ils ont déjà les éléments financiers, donc c'est aussi un avantage. Ils savent que l'entreprise tourne depuis des années, il y a un bénéfice, il y a des résultats, éventuellement même il y a un bon fonds de caisse, il y a une trésorerie.
Ils peuvent également se poser les questions, pourquoi cette entreprise va changer demain ?
En fait, il y a plusieurs raisons. Souvent, cette question-là, c'est vrai qu'elle est posée, il faut vous la poser. Pourquoi le chef d'entreprise, son entreprise fonctionne correctement, souhaite vendre ? Il y a plusieurs raisons. Il y a simplement, la première raison simple, c'est le départ à la retraite. Le chef de l'entreprise, il dit, écoutez, moi, j'ai pas d'héritier qui vont reprendre mon entreprise, je la mets en vente. Donc, vous savez que c'est une entreprise qui vit correctement, c'est simplement que l'homme clé de l'entreprise part à la retraite. Il peut arriver que vous soyez muté. Une entreprise se trouvant en France, aujourd'hui, Phil Le Montagnard, on le nomme au ministre au Gabon, Ben, il a son entreprise de production.
C'est un rêve d'ailleurs.
Voilà. On le nomme ministre au Gabon. On lui dit, ben, écoutez, ben, à partir de là, votre entreprise de production qui fonctionne correctement, mais vous n'avez pas le choix. Vous allez mettre en vente cette entreprise-là pour pouvoir aller honorer vos nouveaux engagements. Ouais, donc il y a plusieurs raisons, mais il faut vraiment se renseigner parce que des fois, vous pouvez tomber sur un piège où l'entreprise a perdu son contrat principal. Et le cédant ne vous en parle pas et vous tombez sur cette mauvaise surprise qu'à l'arrivée, oui, il faisait 1 million, 1,5 million de chiffre d'affaires.
Et il peut y avoir des dettes cachées aussi.
Des dettes cachées, c'est pour ça qu'il est important, on abordera un peu plus loin, de se faire accompagner, que les comptes soient audités et qu'il y ait réellement une évaluation de l'entreprise avant de sortir le chéquier.
Alors, quels sont justement les inconvénients d'une reprise d'une entreprise ?
Inconvénient majeur, c'est le prix. C'est-à-dire que quand vous faites votre création d'entreprise de base, donc il n'y a pas cette notion de clientèle à financer. Quand c'est une reprise, ben, l'entreprise elle est déjà bien assise, elle a déjà mis en place énormément d'investissements. Donc celui qui va céder souhaite récupérer à la fois son capital et ses investissements et voire même ses bénéfices non distribués. Donc c'est déjà un premier élément qui est non négligeable. Vous devez vraiment sortir le chéquier. Donc il faut être préparé à ça. Autre chose, il y a ce qu'on appelle une comparaison gênante. Vous savez, quand je viens remplacer M. Philo Montagnac qui est à la radio depuis 15 ans, 20 ans, automatiquement, ses salariés, ses collaborateurs vont toujours essayer de peser le pour et le contre, à dire c'était mieux avant avec Phil, depuis que le coach il est arrivé, c'est plus compliqué. Voilà, vous allez subir un peu ce genre
de remarques.
Il faut être armé à ça. Et puis, il y a aussi, vous allez hériter du personnel, comme on a dit tout à l'heure, non choisi. Donc, quand vous arrivez sur place, il y a déjà une équipe, ils ont déjà leurs habitudes. Ouais. C'est pas facile parce que moi, j'ai eu
un mécanisme déjà.
Ils ont déjà un mécanisme. Il y a beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai eu avec mon associé à racheter un autre cabinet d'expertise comptable. Donc, quand vous arrivez, il faut vraiment prendre les précautions nécessaires parce qu'il y a des gens, ça fait 15 ans, 20 ans, ils travaillent au sein du même cabinet, ils ont leurs habitudes. Donc, vous arrivez, vous pouvez pas tout chambouler du jour au lendemain. Par exemple, changer tous les logiciels, changer leurs horaires, il y a des avantages qui sont acquis, donc il faut vraiment aller étape par étape pour éviter carrément de tout perdre.
Alors coach, pour revenir un peu à l'actualité, nous savons que les restaurants, je vais prendre l'exemple des restaurants, sont fermés depuis un moment déjà. On ne sait pas si d'ici le 20 janvier les restaurateurs vont pouvoir à nouveau exercer. On imagine bien que parmi eux, certains vont mettre la clé sous le palliation. Est-ce que ça va être un avantage ou un inconvénient d'acheter certains restaurants qui vont fermer parce que la crise a perduré pour eux?
Oui, pour ma part, ça va être vraiment l'occasion. Ceux qui rêvaient d'avoir un restaurant, ça va être peut-être même le moment. Et deuxièmement, au niveau du loyer, parce que les loyers, en général, ils sont assez élevés. C'est une charge fixe importante au sein d'un restaurant. Maintenant, les bailleurs, ils n'auront pas le choix. Vous aurez la possibilité, pour une fois, de renégocier à la baisse les loyers. Parce que s'il n'y a personne pour reprendre le restaurant ou leur local vide, malheureusement, ils auront plus d'entrée d'argent. Donc, c'est vraiment le moment de négocier à la baisse le bail commercial.
Donc, il faut absolument se battre pour pouvoir baisser les prix.
Oui, tout à fait, parce que c'est le moment. Parce qu'à un moment donné, un local vide ne rapporte pas d'argent. Le bailleur, il n'aura pas le choix. Quand un repreneur se présente, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de bailleurs, peut-être ça fait 5 mois, 6 mois, qu'ils encaissent plus aucun loyer. Surtout les petits bailleurs privés, ils vont vraiment se retrouver en difficulté parce que de l'autre côté, ils ont des crédits à payer. Donc, vous pouvez arriver en disant, écoutez, moi, je suis prêt à reprendre cet établissement-là, que ce soit restaurant, institut de beauté et consorts. Vous passez à la négociation avec le bailleur pour essayer de tirer à la baisse un peu la tarification.
Alors, j'ai parlé des restaurants, des restaurateurs. Comment définir le profil type de l'entreprise à reprendre? Est-ce qu'il y a un certain type d'entreprise? Parce que bon, il y a le coiffeur d'à côté qui dit ben, « moi, j'ai plus assez de clients, je veux vendre mon salon de coiffure ou, je sais pas, une boulangerie ». Quel est le profil type d'entreprise que l'on pourrait racheter?
Pour moi, le profil type, il y a des éléments à définir. Avant de pouvoir se lancer à la recherche d'une reprise d'entreprise, il faut d'abord cibler le secteur d'activité, d'accord ? La zone géographique d'implantation de l'entreprise, la taille de l'entreprise, parce que, bah, écoutez, si vous avez 100 000 euros dans les poches, vous n'allez pas vous attaquer à reprendre une entreprise qui fait 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires. Donc, malheureusement, la banque ne va pas vous suivre. Il faut absolument, en fait, cibler ces éléments-là. Il faut savoir quel type d'entreprise que vous souhaitez reprendre. Est-ce que c'est une entreprise familiale? Est-ce que c'est une entreprise qui a une bonne notoriété? Est-ce que l'entreprise est bien placée? C'est quoi les produits qu'elle fabrique? C'est quoi les services qu'elle propose? Une fois que vous avez déterminé cela, ben, vous pourrez vous lancer à aller chercher la perle rare, en fait.
Comment trouver les opportunités de reprise? Est-ce que c'est pas tout le monde qui passe des annonces?
Non, malheureusement, c'est difficile. Ouais. Je vous le cache pas, c'est difficile d'être informé. Il y a que vraiment les personnes à viser. Il y a des sites internet où il y a des professionnels qui sont au courant de ça. Donc, pour ma part, il est très compliqué de ça, parce que quoi qu'il en soit, des fois même celui qui vend, il a pas envie que l'information sorte, parce que à un moment donné, quand ça circule, ben vous pouvez perdre les clients, ils vont commencer à se poser la question, aller au niveau de la concurrence, ou carrément ça peut démotiver certains salariés, parce que quand vos salariés sont attachés à vous, et derrière ils se disent là il va partir, ils peuvent commencer à aller chercher ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Donc je vous invite à vous rapprocher vraiment des entreprises spécialisées, et éventuellement, si vous avez l'opportunité, d'aller voir les entreprises en cours de liquidation judiciaire. Un grand spécialiste de ça à l'époque, c'était monsieur Bernard Tapie, qui reprenait les entreprises à 1 euro symbolique et qui remettait la machine en route et qui recédait après les entreprises par la suite. Donc quand les entreprises sont en liquidation judiciaire, c'est vraiment l'occasion de débourser le moins d'argent possible pour pouvoir acquérir l'entreprise.
Alors par qui le repreneur d'entreprise peut être dévancé?
C'est ça le souci, c'est-à-dire que vous pouvez être intéressé à reprendre une entreprise, et malheureusement vous arrivez, il y a des salariés en interne qui ont eu la vente de leur entreprise, mais ils vont se positionner. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment difficile de tomber sur la perle rare si vous avez pas vos oreilles un peu partout et quelques connexions dans le milieu visé.
Est-ce que des salariés peuvent s'organiser pour la reprise, par exemple, de leur société?
Bien sûr. Tout à fait. Ils ont même normalement la priorité. Quand les salariés souhaitent reprendre leur entreprise, que financièrement leur banque les suive, ils peuvent proposer leur offre, et normalement ça parce que c'est même conseillé que ce soit les salariés qui maîtrisent l'entreprise, qui ont l'ancienneté, qui ont une véritable connaissance de l'entreprise à pouvoir prendre le relais du chef de l'entreprise qui est par exemple décédé ou qui est parti à la retraite.
C'est la partie du film qui m'intéresse au plus haut point. Quels sont les différents moyens de financement de l'opération d'acquisition?
Les différents moyens de financement, il y a plusieurs possibilités. Ouais. Il y a déjà vos fonds propres. D'accord. Qui dit fonds propres, c'est...
Il faut avoir
quand même un minimum de capital. C'est-à-dire, c'est votre apport en capital. Vous pouvez aussi faire un apport en compte courant. La différence entre les deux éléments, souvent les gens ne le maîtrisent pas assez bien. Quand on parle de capital et apport en compte courant, le capital, c'est l'argent que vous investissez dans la société, qui rentre dans le capital, que vous ne pouvez pas ressortir tant que la société n'est pas clôturée. Mais cet argent-là peut servir à faire vivre la société au quotidien. Ouais, ça, c'est l'apport en capital. Donc, les associés ne peuvent pas récupérer cet argent-là. Par contre, l'apport en compte courant, on a fait notre capital de 10 000 euros. Or, on a des dépenses de 50 000 euros. Les associés peuvent décider de ramener 40 000 euros supplémentaires dans les comptes de la société. Mmh. Donc c'est comme si les associés prêtaient de l'argent à la société. Cet argent-là peut faire office d'une rémunération. Donc il y a un produit financier qui peut être donné, des intérêts donnés à chaque associé qui a apporté les 40 000 euros chaque fin d'année, avoir des intérêts liés à cet apport-là. Mmh. Et cet apport-là est remboursable quand l'entreprise retrouve les capacités financières nécessaires pour rembourser les différents associés qui ont avancé cet argent-là. Voilà, et vraiment, la différence est là entre le capital et l'apport en compte courant. Mmh. Et il faut absolument faire très attention quand vous faites l'apport en compte courant. Il faut que l'argent vienne de votre compte personnel avec un virement de préférence ou un chèque, et vous faites une copie de chèque, vous le gardez. Parce que demain, en cas de contrôle fiscal, si vous ne prenez pas soin de justifier l'origine des fonds, vous allez être taxé sur cet argent-là.
Ah.
Donc ça, je tire vraiment la... Il faut absolument qu'il y ait une traçabilité. Par exemple, si c'est un membre de la famille qui veut vous prêter de l'argent, ce membre-là ne peut pas vous le prêter directement à la société. Il doit passer par votre compte personnel. Et vous, en tant qu'associé, vous faites un virement dans le compte de la société. Absolument transparence.
La reprise d'une entreprise, c'est donc le dossier que nous abordons ce matin avec le coach Dave Muller. Je vous invite aussi à nous appeler si vous avez des questions, bien évidemment, au 01 55 07 58 00. Alors coach, quelles sont les aides justement pour la reprise d'une entreprise? Peut-on bénéficier de quelques aides?
Oui, tout à fait. Les aides, parce que souvent les gens s'imaginent tout de suite les aides, c'est l'État qui signe le chèque blanc qui vous donne 100 000, 200 000. Non, malheureusement, c'est pas dans ce sens-là. Les aides, par exemple, si vous
êtes... Mais on aimerait bien.
Oui, mais non. Quoi qu'il en soit, si on fait ce genre d'action-là, sachez-le que les impôts vont augmenter dans l'autre sens. Donc,
exact.
On peut pas tout avoir. Donc, l'aide, par exemple, au niveau de Pôle emploi, vous pouvez conserver vos droits à l'allocation chômage pendant, par exemple, si vous avez encore 12 mois, 13 mois ou 23 mois. Vous pouvez continuer à toucher votre chômage tout en reprenant une entreprise. Il faut bien sûr ne pas toucher de la rémunération dans la nouvelle entreprise, sinon les choses vont s'arrêter. Vous pouvez aussi demander 50% du capital restant de vos droits au niveau de Pôle emploi. Donc ça fait partie, pour ma part, ce sont des aides. Vous avez aussi des aides sur le plan social, une exonération partielle de vos cotisations sociales sur la première année. Vous avez aussi cette possibilité-là d'avoir une réduction de votre impôt sur le revenu via le montant du capital investi dans la société. Vous avez la possibilité d'avoir des prêts à taux zéro.
Ah.
Des prêts à taux zéro qui peuvent aller jusqu'à 25, voire même dans certains, par exemple dans le 93, ça s'appelle Initiative 93, ce sont des associations qui financent à condition qu'il y ait un banquier qui vous suive derrière. Ah. Voilà, donc vous pouvez avoir des prêts à taux zéro avec un décalage de remboursement minimum de 12 mois, donc c'est plutôt intéressant
chose.
En fait.
Ouais.
Voilà, ce sont les différentes aides, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme.
Quels sont les différents montages juridiques de l'opération de reprise, coach?
En fait, il y a plusieurs possibilités.
Ouais,
c'est soit.
Il va falloir être très pointilleux là-dessus.
En fait, il y a plusieurs possibilités. C'est soit vous souhaitez reprendre l'entreprise A, il y a deux associés, vous allez racheter simplement les parts ou les actions de la société. Ça peut être une bonne chose comme une opération dangereuse. Pourquoi? Parce que quand vous reprenez par le biais des parts, vous rachetez les parts de la société, l'entreprise continue à exister avec son passé. Donc en cas de contrôle, même s'il y a un engagement sur le passif, il peut arriver que demain il y a un contrôle fiscal, il y a un contrôle URSSAF, ben ils vont contrôler, même si c'est pas vous qui étiez à l'origine au fait des actes de gestion, vous pouvez être contrôlé et justifié. Et c'est pour ça qu'il est très important, quand vous rédigez vos actes de cession avec les anciens, il faut carrément absolument qu'il y ait la clause du passif. Cette clause-là vous permet en fait de vous retourner contre les anciens si leurs actes de gestion n'étaient pas à la hauteur, qu'il y ait un redressement fiscal ou un redressement URSSAF. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment l'inconvénient majeur quand on reprend les parts et la société continue à tourner. Mais pourquoi on fait souvent cette option-là? On se dit, il faut que l'ancienneté de l'entreprise continue. C'est pour ça qu'on fait des rachats de parts des parts sociales pour garder l'ancienneté. Les clients connaissent déjà l'entreprise depuis des années. Ça, c'est première option. L'autre option, c'est carrément faire l'acquisition seulement du fonds de commerce. Dans tout ce qui est clientèle, tout ce qui est matériel, vous le sortez de cette entreprise-là, vous créez une nouvelle entreprise et vous reprenez à la fois le clientèle et le matériel. Là, vous cassez tout lien avec le passé sur le plan fiscal et URSSAF.
Donc, est-ce que c'est conseillé justement cette option ?
Au fait, tout dépend de la qualité du dossier que vous reprenez. Quand c'est des gens sérieux qui ont déjà subi des contrôles fiscaux, des contrôles URSSAF, où il y a une bonne gestion, vous avez fait faire l'audit par un cabinet d'expertise comptable, vous vous rendez compte que l'entreprise est saine, souvent il vaut mieux garder cette identité parce que pour les fournisseurs et pour les clients, on connaît la marque, on connaît l'endroit, on connaît les lieux, on connaît vraiment l'historique de l'entreprise. Or, repartir à zéro avec une nouvelle entreprise, il faut tout recréer, il faut tout remettre en place. Des fois, c'est compliqué. C'est pour ça que je ne peux pas dire que cette position-là est la meilleure. Tout dépend de l'entreprise que vous avez en face, l'historique de l'entreprise. Des fois, il vaut mieux même casser l'historique parce que l'entreprise, quand vous allez sur Internet, elle a des mauvaises notations. Il vaut mieux carrément, carrément passer à autre chose et créer un nouveau nom et pour éviter d'être rattaché au passé.
Ouais. Africa. Parlons entreprise sur Africa Radio.
Parlons entreprise se poursuit avec coach D. Muller. Alors coach, est-il nécessaire d'établir un prévisionnel au business plan pour une entreprise qui existait déjà ?
Oui, parce que vous ne pouvez pas avancer à l'aveugle, en fait. Vous pouvez avoir les comptes actuels de l'entreprise et c'est pour ça qu'il est conseillé clairement d'auditer les comptes. Mais pas vous, parce que vous n'êtes pas spécialiste. Il faut faire appel à un expert comptable pour qu'il puisse s'asseoir, pour qu'il puisse prendre le temps nécessaire. Des fois, il vaut mieux perdre 1500, 2000, 2500 euros auprès d'un professionnel. Pour moi, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est plutôt de l'argent épargné. Parce que si vous ne faites pas ça et vous vous dites que je suis capable moi-même d'analyser les comptes et de me dire que c'est une affaire en or et derrière vous vous retrouvez à prendre des emprunts à la banque de 150, 200 000, 300 000 euros et que ça ne donne absolument rien, il vaut mieux passer par des professionnels. Et souvent même, j'incite aussi les dirigeants à aller passer du temps avec les chefs d'entreprise, aller voir comment l'entreprise tourne. Parce que vous savez, on peut vous donner les bilans en disant mon restaurant fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand vous allez sur place, vous vous rendez compte qu'il y a 4-5 clients par jour. Ouais. Vous allez vous dire, mais tiens, il y a une incohérence. Parce que malheureusement, comme vous le savez, il y a des bons comptables quand il s'agit des experts comptables. Parce que
on peut maquiller des chiffres.
On peut maquiller les chiffres. Les experts comptables, c'est pas trop dans leur domaine. Pourquoi ? Parce que eux, ils sont engagés pénalement. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire ce genre de choses. Mais souvent, ce sont les petits tontons, les comptables du coin, qui font de la comptabilité sans avoir le diplôme. Eux, ils peuvent faire dire les chiffres, faire composer la comptabilité comme ils souhaitent. C'est pour ça qu'il est important, quand vous souhaitez reprendre une société, il faut déjà s'assurer que les comptes ont été établis par un expert comptable à l'origine. Voilà. Et de l'autre côté, les faire auditer par un autre expert comptable pour qu'ils puissent vérifier, valider la véracité des chiffres. Et de vous-même, vous pouvez aussi aller sur place, aller vérifier qu'il y a vraiment une activité économique à la hauteur des chiffres qui vous sont fournis. C'est vraiment quelque chose, il faut le faire.
Alors coach, qui peut accompagner le futur entrepreneur ?
Le vrai magicien du chiffre, c'est un expert comptable. C'est un cabinet d'expertise comptable. Je dirais pas, je ne presse pas pour ma paroisse, mais il y a des gens, on a été formés pour identifier les choses à la fois sur le plan juridique, sur le plan fiscal, sur le plan comptable. Je vous dis, mettre un peu d'argent au départ, ça peut vous éviter des erreurs, ça peut vous éviter d'acheter une entreprise qui n'en valait pas la peine. Et souvent, même dans la communauté africaine, on néglige vraiment cela parce qu'on aime bien s'accommoder avec les pseudo-comptables parce qu'il est pas cher, il me prend 100 euros ou 50 euros, ou bien mon tonton qui a bac plus zéro en comptabilité, mais qui aura quelques notions grâce à Internet, et vous allez lui confier votre argent et l'avenir de votre société et de votre famille. Donc, j'attire vraiment votre attention d'avoir cette culture-là, de se rapprocher des spécialistes dans chaque domaine pour en tirer le meilleur.
Alors nous allons justement prendre un tonton qui voudrait intervenir. C'est notre James Bond congolais, Zikondo. Bonjour Zikondo.
Bonjour Phil Montagnard, les pyramides. Et bonne année à Coach Miller, notre Zidane.
Bonne année, ouais. Alors, une question sur le sujet.
En tout cas, mon ami, comme j'ai toujours des sujets, donc un ami à moi, il voulait montrer son entreprise. Mmh. Il a vu le restaurant. Sa femme a dit que restaurant, ce n'est pas une entreprise. Mais quand on est parti dans les restaurants, le monsieur, il nous a dit d'acheter le mur. Mon ami, acheter le mur, c'est quoi? Au Congo, quand tu achètes un restaurant bien au Gabon, on n'achète pas le mur. Maintenant, je vais savoir mon coach Miller Zidane. Est-ce que les restaurants, ce n'est pas une entreprise? Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. Je vous embrasse, les filles de Paris.
Merci, Zikondo Puntu. Toujours avec un point d'humour. Alors,
oui, en fait, il faut... Quand vous rachetez un restaurant, vous rachetez le fonds de commerce. C'est vraiment le fonds de commerce, pas les murs. Hein. Normalement, quand il y a, c'est composé de deux manières. Vous rachetez le fonds de commerce. À l'intérieur, vous avez le bail commercial qui fait 3, 6, 9. Hein. D'accord? Donc, si vous avez les moyens, vous pouvez acheter à la fois le fonds de commerce plus les murs. Mais les deux choses sont à séparer, vraiment. C'est vraiment quelque chose à séparer. Vous n'avez pas l'obligation de racheter les murs. Sauf si le vendeur souhaite à la fois vendre son restaurant et vendre les murs.
Mais si les murs ne sont pas vendus, c'est comme si l'ancien propriétaire a toujours une mainmise.
Non, parce que l'ancien propriétaire, là, on rentre dans l'autre cadre en tant que bailleur. Il est simplement bailleur, il prend son loyer et ça s'arrête là. Il ne va pas se mêler de votre activité professionnelle par rapport au restaurant. C'est deux choses distinctes.
Alors, que peut-on dire avant de se quitter, coach, pour la reprise d'une entreprise? C'était donc le sujet que nous avons abordé. Nous sommes dans une période toujours compliquée, difficile pour les entrepreneurs.
Tout à fait.
Est-ce que c'est conseillé de pouvoir se lancer en cette période?
En fait, il n'y a jamais de bon moment. Mais quand vous êtes préparé en conséquence, il faut déjà à la fois cibler votre activité. Mais il faut pas attendre. Il faut pas attendre. Vous pouvez démarrer au fur et à mesure. Surtout quand ce sont des activités qui demandent pas énormément de moyens. Quand vous êtes prestataire de service, vous laissez pour l'instant les bureaux à votre domicile. Vous mettez le siège chez vous. Vous avez déjà votre véhicule privé. S'il faut aller faire votre prestation, ça demande pas énormément de moyens. Il faut déjà démarrer. Quand l'activité va reprendre, vous serez déjà en train de rouler. Parce que si vous ne démarrez pas tout de suite, il y a d'autres qui auront déjà marqué le pas, qui vont déjà faire le nécessaire et vous serez derrière eux vis-à-vis de la clientèle.
Voilà, merci coach pour toutes ces informations et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Coach.
Merci Phil, la semaine prochaine.
Africa. C'était Parlons Entreprise sur Africa Radio, l'émission qui accompagne les entrepreneurs, présentée par Phil Le Montagnard avec le coach Demuller.